Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs et ravi de vous retrouver en ce milieu de mois d'août.
Alors, aujourd'hui, au programme, la tiers-mondisation de la France. Alors, je sais que c'est un sujet un peu déprimant pour les Français,
oui,
mais c'est la vérité, il faut la dire.
Ouais. À tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Vous allez voir qu'on va évoquer des sujets un peu déprimants, que ce soit au niveau de l'économie, du pouvoir d'achat, de l'immobilier, et puis au niveau aussi de la destruction du patrimoine, ou de sa mise en péril, qui est organisée par l'État et les pouvoirs publics.
C'est à tous les niveaux. Alors, on peut me dire que c'est déprimant, mais il faut bien que l'on se réveille, pour ceux qui n'en sont pas encore conscients. Et puis c'est en étant un peu déprimé, je dirais, que l'on se mobilise.
Non, mais puis de toute façon, quand vous allez voir votre médecin, s'il vous dit à chaque fois que tout va bien, que vous n'êtes pas malade, un jour ou l'autre, vous risquez de vraiment être malade et de ne pas être soigné.
Absolument.
Donc c'est un peu
le
problème.
C'est cette tiers-mondisation, je dirais qu'elle a deux visages. Il y a son visage économique. Social, etc. Et puis aussi le visage esthétique. Parce qu'on subit une tiers-mondisation à tous les niveaux. Et donc on va peut-être parler des deux, pas peut-être, certainement, du factuel économique, social, etc. Et puis de ce que l'on voit tous les jours. Et donc Pierre-Henri, on va commencer par la tiers-mondisation de la France en tant que... Alors d'abord, la principale différence entre le tiers-monde et ce qu'on appelait autrefois... Alors maintenant, je fais une petite parenthèse. Comme maintenant, tout le vocabulaire doit être changé pour être politiquement correct. Vous savez, on ne dit plus la province, on dit les régions, je ne sais pas pourquoi.
Non, les territoires,
les régions. Parce que province, c'est péjoratif, paraît-il. Non, moi, je continue à dire province. On ne dit plus tiers-monde, on dit le sud global, ce qui ne veut rien dire.
Oui, ou les suds même, au pluriel, ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus.
Et donc, autrefois, moi, je continue à utiliser le vocabulaire que j'ai appris quand j'étais à l'école. On disait les pays développés.
Les pays en voie de développement.
En voie de développement.
Les pays sous-développés, ça a été le premier à disparaître.
Ouais, on disait
les
péjoratif.
Pays, les moins avancés.
Il faut appeler un chat, c'était des pays sous-développés.
Ouais.
On avait dit
qu'ils
en voie
toujours,
de développement
d'ailleurs,
pour leur faire des fleurs.
Mm.
Et d'ailleurs, ils étaient en voie de développement, ça fait un siècle qu'ils sont en voie de développement, ils n'arrivent pas à arriver où.
À décoller, voire deux siècles, on regarde Haïti, par exemple.
Eux, ils sont en voie de développement, nous, on est en voie de sous-développement. Nous sommes en voie, il n'y a pas de problème. Et donc... Le principal facteur qui différenciait les pays développés du tiers-monde, appelons un chat un chat, c'était la classe moyenne. C'était la première chose qui fait que vous êtes un pays développé, c'est que vous avez la majorité de votre population qui fait partie de la classe moyenne.
Mmh.
Et il y a une définition de la classe moyenne. Alors que dans les pays du tiers-monde, vous avez une écrasante majorité de pauvres et une toute petite minorité de très riches qui détient tout. Dans les pays développés, vous avez un peu de riches, un peu de pauvres, et beaucoup, 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 c'est-à-dire plus de 80% de la classe moyenne, ce qui fait de vous un pays éduqué, civilisé, etc. Et aujourd'hui, la France, le principal facteur qui l'a fait partir sur une voie de sous-développement, c'est que sa classe moyenne, on l'a dit plusieurs fois, est en train de baisser.
Mmh.
Et moi, j'irai plus loin, j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître, Pierre-Henri.
Ah oui, mais...
Et comment on peut voir ça?
Alors, ça se voit, il y aurait plein de facteurs. D'ailleurs, il y a Nicolas Bavrez, on en pense qu'on en veut, qui avait fait un article dans Le Figaro récemment pour évoquer ce sujet, qui donnait plusieurs éléments. Mais en fait, il y a déjà une dégradation économique. Et la dégradation économique, elle est dans ce qu'on appelle largement le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'accès à la consommation de biens courants, de biens qui auparavant étaient des biens de luxe, mais ça fait partie de la consommation. Et puis dans les biens courants, vous avez, même si on n'en achète pas tous les jours, bien évidemment, le logement. Et l'accès au logement, c'est l'un des points qui est les plus, sans doute, les plus noirs dernièrement, c'est-à-dire que les générations actives, bien évidemment montantes, c'est-à-dire celles qui sont entre 25 et 40 ans, n'ont plus du tout le même pouvoir d'achat que celles d'il y a 10 ans, que celle d'il y a 20 ans, mais surtout a fortiori que celle que l'on appelle les boomers actuellement, c'est-à-dire qui sont déjà dans l'âge de la retraite, ceux qui sont nés en gros entre 45 et 55, qui ont commencé la vie active entre 65 et 75 et qui avaient une possibilité à la fois de consommation quotidienne et d'accès à l'immobilier, à l'achat immobilier, que les équivalents aujourd'hui n'ont plus du tout. Et alors, on a, à titre de comparaison, hors antenne, on parlait du point de vue des Américains qui viennent en touristes en France. Le revenu moyen d'un actif en France, en 2024, il est de 38 000 euros. D'accord, richesse par habitant. C'est la richesse par habitant. Oui. Moyenne en 2024, 38 000 euros. Est-ce que vous avez une idée à peu près de celle aux États-Unis en équivalent euro?
75 000, je dirais.
Oui, ouais. À peu près. En équivalent euro, on n'est pas loin des 80 000 euros en moyenne.
Oui. Oui,
donc,
oui, c'est...
vous voyez quand même la différence. Alors, vous me direz, oui,
oui,
c'est
la première
puissance.
Parce que quand je vois des Américains à Paris, je vois des Américains d'une classe moyenne à Paris, moyenne moins même, et je les vois dépenser de l'argent sans trop se soucier. On voit bien que pour eux, c'est pas très cher, alors que pour nous, c'est hors de prix. Mmh. Vous voyez, je vois des Américains, ils vont dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles à Paris. Leur équivalent de la même classe sociale en France ne peuvent pas se permettre d'aller en vacances dans des hôtels 4-5 étoiles. C'est très simple.
Bah,
parce que pour eux, les Américains, mais il n'y a pas que les Américains,
les
Sud-Coréens, les Japonais, en fait, tous ces pays développés qui ne sont pas forcément européens, qui sont d'Amérique du Nord, comme le Canada ou les États-Unis, d'Asie, comme le Japon ou la Corée. Ce sont des pays industrialisés. La Corée du Sud, par exemple, a fait un boom extraordinaire. Aujourd'hui, un cadre supérieur en Corée du Sud, il a des moyens que le cadre supérieur français n'a pas.
Oui, et alors la Corée du Sud, on pourrait en reparler, c'est un excellent exemple, parce que quand elle est sortie de la guerre de Corée en 53, après une partition, une guerre qui a fait plus de 2 millions de victimes, elle était au niveau de développement économique d'Haïti.
Oui.
Donc là, 70 ans plus tard, Haïti est toujours au même niveau, voire presque pire en termes de violence et d'insécurité, mais la Corée du Sud est devenue l'un des top 5 au niveau économique mondial.
Oui, et la Corée du Sud... nous concurrence aussi sur le plan de l'armement, parce qu'ils fabriquent beaucoup d'armes maintenant.
Ouais.
Ils se sont même lancés dans
l'une des principales, c'est la firme Daewoo, qui fait des voitures aussi, mais qui fait de l'armement.
Et c'est devenu un bon. Rappelons que la France est un des premiers exportateurs d'armes au monde, troisième, il me semble, de mémoire. Et donc, derrière nous, il y a Israël et la Corée du Sud qui commencent à nous talonner. Alors, j'en profite, puisqu'on parle de la Corée du Sud, pour rappeler juste. Aux fantasmeurs, entre guillemets, je mets ça, c'est ce terme qui n'existe pas, qui nous parle des BRICS matin, midi et soir,
comme un modèle
qui va remplacer
les États-Unis, l'Occident, le dollar.
Oui, le dollar, la puissance américaine,
un modèle alternatif.
Je rappelle juste que le BRICS, c'est le rassemblement des clochards, en fait. Pardon d'être un peu brutal comme ça, parce que, vous savez, la Corée du Sud, en fait, dans notre imaginaire, on pense que le BRICS, c'est tout ce qui est anti-américain, le Sud global, comme on l'appelle, voilà, très bien. Sauf que la Corée du Sud n'est pas l'Occident. On pense que c'est tout ce qui n'est pas l'Occident ou l'Orient. Bon. En fait, la Corée du Sud et le Japon ne font pas partie du BRICS, bien évidemment.
Singapour non plus.
Et c'est des puissances économiques extraordinaires. Bon, l'Argentine a failli en faire partie et depuis l'élection...
On est ressorti de Javier Milei.
En fait, ils étaient en voie de clochard. Enfin, ils étaient devenus des clochards parce qu'ils étaient en faillite totale. Ils voulaient adhérer
plusieurs
au BRICS.
Fois. Oui. Parce que l'histoire de l'Argentine depuis les années 90, c'est quasiment deux fois une mise sous tutelle et une faillite. Hein.
Oui, et donc quand ils étaient en faillite, ils voulaient appartenir au BRICS. Et lorsque Milei a été élu et il a redressé la situation économique, il leur a dit au revoir au BRICS. Ça démontre que c'est pour ça que je dis il y a un rassemblement de clochards. Parce que rappelons que les BRICS, c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et
la Russie.
Alors l'Inde...
Dans l'Inde, de toute façon, est liée parce que l'Inde, diplomatiquement, elle est partout.
Oui.
C'est-à-dire, elle entretient de très bonnes relations avec tout le monde. Ça a été sa stratégie, d'ailleurs, pendant la guerre froide aussi. Et c'est à peu près le seul pays qui ait vraiment réussi à ne pas être aligné parce qu'elle était alignée avec tout le monde. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Ils essaient de bien s'entendre avec les États-Unis, avec l'Union Européenne, avec aussi la Russie. C'est plus difficile avec la Chine parce qu'ils ont de vrais contentieux et ils se détestent.
Mais ils sont tous les deux dans les... Mais là...
Voilà.
L'Inde, puissance économique. Enfin, l'Inde nous achète des avions de chasse parce que voilà une puissance économique qui n'est même pas capable de fabriquer ses propres armes. L'Inde, où il y a une pauvreté extraordinaire, c'est devenu. Ils ont dépassé la Chine en nombre d'habitants.
1,6 milliard quasiment. Ouais.
Le Brésil, qui est un pays corrompu jusqu'à l'os, dans lequel il y a une population extrêmement. Le taux de pauvreté est extrêmement élevé. C'est typique du pays du tiers-monde où il y a beaucoup de.
Là, une classe très riche,
extrêmement
faible,
riche
numériquement, et une classe pauvre, voire très pauvre.
C'est ça, les BRICS, en fait, l'Afrique. Ce sont des pays qui, économiquement, sont à la traîne, même si deux d'entre eux, la Chine et l'Inde, sont un peu les usines de l'Occident. Mais je rappelle que quand on est l'usine de l'Occident, il suffit de ne plus rien leur acheter et ils meurent de faim, hein, vous savez. Donc il faut rappeler ça tout le temps.
Alors,
C'est pour ça que la Chine est souvent retient ses alliés quand ils font la guerre à l'Occident, en l'occurrence l'Iran par exemple, ou la Russie contre l'Ukraine, qui n'est pas vraiment à l'Occident, l'Ukraine, mais je veux dire que quand il y a des guerres comme ça, les Chinois retiennent leurs alliés parce que ils ont très peur que l'Occident ne leur achète plus rien, ou que leurs exportations vers l'Occident baissent, parce que c'est ça qui les fait vivre.
Alors oui, et moi je voudrais poser la question différemment. Parmi les pays constituant l'acronyme BRICS, qui, parmi les auditeurs, dont certains d'ailleurs, comme vous le disiez, défendent ardemment le contre-modèle anti-occidental, anti-américain des BRICS, qui a envie d'aller y vivre?
Oui.
Alors bien évidemment, il y a des enclaves qui sont intéressantes à Sao Paulo, à Rio de Janeiro. Pourquoi pas?
Oui, c'est les îlots de riches.
Ce sont des îlots de riches qui,
Et vous n'aurez pas
généralement,
les moyens d'y vivre.
voilà, d'une part. D'autre part, ils sont fortifiés, ils sont gardés par des gardes armés,
Oui. Où
avec
les
des
gens vont au
systèmes
restaurant en hélicoptère.
en hélicoptère.
Donc,
Alors,
si vous voulez aller y vivre, il faut avoir les moyens. Parce que c'est ça, ces pays. C'est que ou vous êtes un milliardaire, ou vous êtes un clochard.
Notre ami Emmanuel Pezet connaît bien, lui, l'Afrique du Sud. Vous ne faites pas 200 mètres à Pretoria sans prendre une voiture avec au moins un chauffeur, parce que vous êtes une proie si vous faites ces 200 mètres à pied, y compris dans l'hypercentre, dans le centre d'affaires de Pretoria. Qui a envie d'aller vivre en Afrique du Sud? Excusez-moi. Je suis désolé. Qui a envie d'aller vivre en Russie? Alors, bien évidemment, la
Oh,
Russie,
si,
c'est...
c'est sympa la Russie. Si vous n'êtes pas, si la moindre, vous faites la moindre critique contre le régime, même si vous êtes son allié,
Oui.
vous dites, il est formidable, mais je suis pas d'accord avec tel
C'est
point.
vous passez par
Vous,
la fenêtre
voilà,
ou
ou
vous
vous
allez au
finissez
goulag.
noyé dans votre baignoire.
Alors après, bien évidemment, c'est un pays magnifique qui a une histoire qui est extrêmement riche, qui a une culture qui est extrêmement riche, bien évidemment, mais contextuellement, sur le niveau économique et sécuritaire, qui a envie d'aller y vivre? Est-ce
Mais
que
non,
vous
mais
avez
il y a
envie
un
d'aller
côté
vivre
aussi
en Inde?
très nature en Russie, parce qu'il y a deux tiers des Russes en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg et des grandes villes connues qui n'ont pas de toilettes. Donc c'est sympa, c'est rustique si vous avez envie de faire du camping. Il y a deux tiers des Russes qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui n'ont pas de toilettes, vous savez ça. Alors comme pays développé, c'est un peu juste, hein.
Oui, mais donc en fait, tout ça pour dire que les contre-modèles, c'est bien sympathique, mais en fait, ce sont des contre-modèles qui sont inopérants et qui surtout ne sont pas des voies à suivre pour la France si jamais on voulait
Alors
la
justement,
redresser.
c'est bien, Pierre-Henri, que vous
Voilà.
disiez ça, parce qu'on les admire tellement qu'on est en train de les rejoindre dans
Exactement,
les faits, là, du coup,
et
dans les faits.
d'accélérer la pente. Moi,
Oui.
je redonne quelques éléments là de l'article de Nicolas Bavrès dans le Figaro. Donc, je vous disais que le PIB par habitant est à 38 000 euros. C'est le 34e rang mondial. Il est inférieur de 7% à la moyenne européenne de PIB par habitant, la moyenne européenne
Oui, oui, oui.
des 27
Oui, parce
pays
que
quand
vous
même.
prenez un Hollandais, je peux vous assurer que on parle on prend deux personnes au même niveau social, au même niveau d'études et au même niveau d'emploi.
Ouais.
Vous prenez un Hollandais, par exemple, il gagne beaucoup plus qu'un Français. Le niveau de vie moyen d'un ressortissant des Pays-Bas est très élevé.
Danemark, on est le PIB par habitant français est 25% inférieur à celui du Danemark, 20% inférieur à celui de la Suède, 15% inférieur à celui de l'Allemagne, et là, on va pleurer, 0,5% de moins par rapport à celui de l'Italie, imaginez-vous.
Oui, oui,
Ouais.
oui. Alors, je ne vais pas
Et
vous
on
faire
donne des
pleurer.
leçons
Non, mais si vous
on
voulez
donne des
pleurer,
leçons en
si vous voulez
permanence.
pleurer, je peux vous citer un exemple d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qu'on le montre du doigt comme le perturbateur de l'Union européenne, c'est la Suisse, qui refuse de rentrer dans l'Union européenne, bien évidemment. Alors, c'est à pleurer quand on voit ça, parce que vous savez quel est le SMIC, quel est le montant du SMIC en Suisse? C'est l'équivalent de 4 500 euros.
Ouais,
Le
tout à
SMIC,
fait, tout à
voilà.
fait.
Et donc, alors nous, si vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, il va vous dire, bah, on peut faire pareil. Non, mais 4 500, on peut pas fixer des SMIC à 4 500 euros si on n'en a pas les moyens. Et nous n'avons pas les moyens, bien évidemment. Parce qu'en Suisse, c'est pas l'extrême gauche qui a fixé le SMIC à 4 500 euros. C'est que l'économie suisse va tellement bien qu'ils peuvent se permettre ça. Alors, évidemment, pour être honnête,
La vie est plus
la vie
chère
est plus
sur
chère,
certains postes budgétaires, pas
mais c'est
tous
très
d'ailleurs.
important de préciser. Il faut rappeler ce qu'on appelle l'indice McDo. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas ce que vous gagnez, ni ce que vous payez. C'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire, effectivement, vous avez des salaires beaucoup plus élevés en Suisse, et la vie est plus chère. Mais la question, c'est, est-ce qu'elle est plus chère dans la même
Dans la même
proportion
proportion.
que l'augmentation de votre salaire? Eh bien, non. parce qu'elle est un peu plus chère, mais les salaires sont beaucoup plus élevés, ce qui fait que le pouvoir d'achat du résident suisse est beaucoup plus élevé que le nôtre.
Bien supérieur,
évidemment. Et donc nous, voilà, nous sommes dans une situation où nous avons une classe moyenne qui est en train de disparaître, parce que nos gouvernants ont privilégié les assistés, les très pauvres. Alors bien sûr, il faut aider les pauvres et tout, mais en fait, on en a créé des pauvres, parce qu'on les...
650 000 personnes supplémentaires chaque année rentrent dans la définition de la pauvreté, en plus, en France. 650 000 personnes par an.
Voilà. Alors, notre classe moyenne, on est en train de l'appauvrir en la siphonnant, en la taxant de plus en plus.
En important des pauvres aussi, parce que ça rentre en ligne de compte.
On importe des pauvres qui nous coûtent cher, et pour entretenir nos nouveaux pauvres que l'on importe,
on tape dans la poche
des classes moyennes qui deviennent aussi des pauvres. Et parfois, ils ne sont pas assez pauvres pour bénéficier des aides. On est un pays qui assiste les très pauvres qu'il importe, avec le portefeuille d'une classe moyenne qui malheureusement n'est plus moyenne. Mais comme nos dirigeants n'en s'en rendent pas compte ou ne veulent pas l'admettre, ils continuent à lui taper dessus alors qu'elle n'est plus une classe moyenne. Elle est devenue pauvre et on continue à lui taper dessus. Mmh. Et donc, alors ce qui est très important, vous l'avez dit Pierre-Henri, c'est le logement. Ça, c'est le baromètre.
Ouais.
Et on dit toujours, tous les économistes disent, et les sociologues, etc., qu'il ne faut pas... Enfin, si vous, pour avoir une classe moyenne correcte, il ne faut pas que vous êtes dans la classe moyenne quand votre logement ne vous coûte pas plus que 25% de vos revenus. Vous voyez, c'est un peu le baromètre. On considère que si votre logement vous coûte plus de 25% de votre revenu, il ne vous reste plus assez d'argent pour vivre comme devrait vivre la classe moyenne, c'est-à-dire ne manquer de rien, avoir le confort, etc. C'est ça la classe moyenne. C'est une classe sociale qui n'est pas riche, mais qui vit confortablement. Voilà. Qui peut faire éduquer ses enfants dans de bonnes écoles, qui bénéficie d'un bon niveau d'éducation, qui va en vacances et qui se nourrit correctement. Et ça, c'est très important aussi, parce que comment on voit que notre classe moyenne disparaît, c'est qu'elle ne se nourrit plus
d'aliments de qualité.
Parce qu'elle n'a plus les moyens.
Ce qui entraîne des drames au niveau, de la santé publique.
Bien sûr. Et donc.
Et qui coûte cher.
Bien sûr. Et donc, on revient à notre. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus se loger convenablement en payant. Si on n'a pas hérité ou si on n'a pas. On ne peut plus, avec notre revenu de classe moyenne moins, par exemple, se loger dans des grandes villes. On est obligé. Alors, moi, je connais de tas de gens qui sont de la classe moyenne, qui ont un travail correct, qui gagnent bien leur vie, et qui sont obligés d'habiter à 100 km de leur lieu de travail. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est la classe moyenne, c'est le confort, c'est-à-dire habiter dans la même ville où vous travaillez. Mm. Ça s'appelle la classe moyenne. Eh bien, alors que les pauvres sont obligés d'habiter loin. Pourquoi ? Parce que pour habiter pas très loin de son lieu de travail, ça peut vous coûter 50% de votre revenu et ce n'est plus possible. Et comment on reconnaît aussi les pays du tiers-monde ? C'est parce que les pauvres sont entassés dans des bidonvilles. J'ai parlé du Brésil il y a quelques secondes, mais il n'y a pas que le Brésil. Vous prenez dans le Maghreb, vous prenez des pays d'Afrique, les populations pauvres, j'allais dire les pauvres, ils sont, je les plains, ils sont entassés, ils vivent, c'est des familles de 6-7 personnes qui vivent dans des 50-60 mètres carrés. Eh bien, on est en train de devenir, c'est la France, vous voyez dans des banlieues où l'on importe des populations pauvres immigrées, donc de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, ils vivent, vous voyez bien que dans nos banlieues, il y a des immigrés que l'on importe, des nouveaux pauvres, et qui vivent, parce qu'ils font 12 gosses, et ils vivent dans 50 mètres carrés entassés les uns sur les autres.
Sauf que parallèlement à ça, en plus, dans les discours de l'extrême gauche, des écolos, mais pas uniquement, parce qu'on l'entend chez certains responsable macroniste, vous avez une idéologie qui, pour des raisons écolo-climatiques, voudrait limiter la surface maximale habitable par personne.
Elle est de 20 mètres carrés aujourd'hui.
Voilà. Et donc, enfin, elle est pour. Enfin, voudraient certains limiter à 20 mètres carrés par personne.
Oui.
En gros.
Oui, parce que là, c'est le minimum. C'est-à-dire que pour une famille de 4 personnes...
Ah non, mais là, c'est la plafonner. C'est pas
ah oui,
mettre un seuil.
Oui, alors
plafonner.
Là, c'est le minimum. Ils voulaient
inverser. Une famille de 3, c'est 60 mètres carrés maximum pour vivre.
Ils veulent faire le maximum à 20, alors que là, c'est le minimum qui est à 20. Aujourd'hui, une famille d'un couple avec deux enfants, c'est on considère que pour vivre convenablement, il faut qu'ils aient 80 mètres. Et je peux vous assurer que c'est pas le cas. Il y a de tas de gens qui sont 4 ou 5, qui sont dans 50 mètres carrés,
dans 50 ou
où
60.
Les enfants sont entassés les uns sur les autres dans une pièce de 15 mètres.
Évidemment.
Et comment voulez-vous qu'ils travaillent pour l'école, de faire leurs devoirs et tout quand ils sont entassés les uns sur les autres dans une pièce.
Mais donc, en fait, pour ces gens, les humains, en fait, sont des lapins à mettre dans des clapiers. Il n'y a aucune, en fait, comment dire, considération anthropologique digne de ce nom derrière. Mais tout ça, ça va dans le même sens et pour les mêmes raisons que la loi sur l'euthanasie et que le reste. C'est-à-dire que l'humain est de plus en plus, et plus il est civilisé, plus c'est le cas, l'humain est de plus en plus remplaçable, voire négligeable, voire en trop. Et dans la pensée écolo-radicale, c'est l'humain est en trop. Et donc, forcément, s'il est en trop, bah, on va commencer par minimiser sa surface de vie, on va lui enlever l'accès aux espaces verts, à la nature, on va le priver de plus en plus...
à ne pas se reproduire.
Le pousser à ne pas se reproduire, lui proposer l'euthanasie dès qu'il est un petit peu déprimé ou dès qu'il a une maladie plus ou moins longue.
C'est comme une voiture, quand elle est vieille, elle ne roule pas très bien, bah, vous l'envoyez à la casse.
C'est ça, et en fait, c'est même plus quand elle est vieille. Là, vous avez des euthanasies pour des dépressifs en Belgique, voire pour des enfants, hein, ça existe vraiment. Oui. Et donc, c'est dès que vous devenez un petit peu en trop pour la société ou surtout pour la conception écologique, écologiste de ces gens, eh bien, il faut vous dégager, il faut vous éliminer. Et en fait, la paupérisation, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'en vous privant, bien évidemment, des plaisirs de la vie, vous n'êtes plus incité à vous perpétuer, à faire des enfants, à prospérer, à vous développer, à avoir des idées, à créer, etc. Donc, c'est une vraie lutte, en fait, contre une culture de mort.
Absolument. Alors, il nous reste peu de temps et vous allez nous parler. Il y a deux sujets qu'on va traiter rapidement.
Rapidement.
La tapisserie de Bayeux. Ça, c'est typique aussi d'un pays qui devient un pays du tiers-monde, qui envoie son patrimoine se faire restaurer ailleurs.
Ah, même pas restaurer, il a exposé, et c'est l'un des enjeux, et c'est surtout, en fait, le gouvernement par le caprice. Et Emmanuel
Donc,
Macron...
Il met son patrimoine en danger.
En danger.
Pour faire plaisir à d'autres.
Alors, en fait, c'était une décision, en fait, de prêter pour un an, en gros, enfin, quasiment 9 mois, à la Grande-Bretagne, en signe d'amitié diplomatique.
Oui, mais ça, cette méthode, pardon, cette mode avait commencé avec les pays du Golfe. On envoyait, le Louvre envoyait des...
Le Louvre à Abu Dhabi, voilà. Voilà. Et après, ils ont créé la succursale.
Ça, prêter des œuvres d'art pour d'autres musées à l'étranger, ça a commencé depuis un certain temps. Mais ça fait partie, pardon, je fais vite, de cette mode maintenant de vous allez en vacances, bah, vous louez votre appartement, vous louez votre voiture. En fait, c'est la dépossession, vous savez. Tout appartient à tout le monde, en fait. Et donc ça fait partie de l'internationalisme un peu.
C'est un projet d'Emmanuel Macron depuis 2018, sauf que jusqu'à l'année dernière, eh bien, soit tout le monde, tous les responsables directs, hein, c'est-à-dire du patrimoine et de la culture, traînaient des pieds, soit disaient clairement non. Pourquoi ? Parce que la tapisserie de Bayeux, pour le rappeler, elle a été faite dans les années 1070-1080 en Angleterre. C'est pas une tapisserie, c'est une broderie. 70 mètres de toile de lin sur 50 cm, brodée au fil de couleur de laine. Et c'est déjà miraculeux qu'elle ait réussi à parvenir relativement intacte au 21e siècle. Et là, alors bien évidemment, il y avait des problèmes internes parce que le musée où elle est exposée à Bayeux devait être rénové. Ça a été très compliqué de l'emmener dans un autre musée à 200 mètres parce que, eh bien, ça exige des conditions de transport et de conservation qui sont hyper rigoureuse, que ça soit sur le taux d'humidité, sur les UV, la lumière, que ça soit sur, et ça c'est le gros problème, les vibrations. Et là, on va faire partir cette broderie absolument magnifique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, entre autres choses. On va la faire partir en Angleterre pour 9 mois, donc là, le départ normalement est en cours. On va la faire partir par camion via le tunnel sous la Manche, et il y a un gros souci, c'est que l'on ne sait absolument pas comment elle va supporter les vibrations induites par le transport. Les vibrations commencent dès la sortie du musée, puisque toutes les rues du vieux Bayeux sont pavées.
En plus, oui.
Alors, bien évidemment, ils ont fait des simulations, mais pas des simulations avec une toile de lin qu'à Milan. Ils ont fait des simulations avec des tissus contemporains, et donc l'entreprise qui a obtenu l'appel d'offres, a dit « Bon, on va faire au mieux, mais on n'est pas du tout sûr du résultat, parce qu'il n'y a jamais eu aucune étude sérieuse sur ce type de tissu ancien. » Donc on envoie, malgré l'avis d'associations de conservateurs du patrimoine, malgré des pétitions, en particulier celle initiée par Didier Rickner, qui est le directeur du magazine La Tribune de l'Art, malgré des avis terrifiés de spécialistes, d'archéologues et de spécialistes de la conservation, eh bien cette toile va partir parce que c'est un caprice de Macron dans un but diplomatique, et on ne sait pas du tout dans quel état elle va arriver en Grande-Bretagne, dans quel état elle sera conservée là-bas, et dans quel état elle va revenir, en grande partie parce que cette question des vibrations est une inconnue dans sa conservation. Alors, la deuxième chose, parce qu'il nous reste à peine une minute, c'est une loi mais on aura l'occasion d'en reparler, qui est défendue par le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, on aura des choses à dire sur ce bonhomme-là, et qui permettrait en fait, pour bétonner la France, et donc pour l'enlaidir, de passer au-dessus des PLU, des plans locaux d'urbanisme, et dans les secteurs protégés, de se passer de l'avis des architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'auparavant, ils avaient un avis bloquant. Avec la loi Jeanbrun, ils n'auront plus un avis que consultatif. C'est-à-dire que dans un vieux centre médiéval, par exemple, vous pourrez casser certains bâtiments, certains monuments et mettre des cubes en béton à la place. Donc ça, c'est le projet. Projet France. Il est porté par Macron, il est porté par plein d'autres, par la gauche, l'extrême gauche. Et elle va vers plus de pauvreté et plus d'enlaidissement.
Bon, sur ces mauvaises paroles, pardon.
On se retrouve dans une semaine pour la rentrée de Culture et Politique.
Merci, à bientôt.
À bientôt.